RFI, grand reportage.
Alexis Guilleux.
Bonjour à tous. C'est une ville du centre de la Macédoine qui s'est brutalement retrouvée sous le feu des projecteurs fin 2016. Donald Trump vient alors d'être élu président des États-Unis à l'issue d'une campagne électorale marquée par un flot ininterrompu de fausses informations en sa faveur sur les réseaux sociaux. Surprenant, des milliers de sites web relayant ces fake news étaient pilotés de Macédoine, un petit pays de l'ex-Yougoslavie aux portes de l'Union européenne. Une centaine de jeunes de la ville de Vélès, des étudiants et même des lycéens étaient impliqués. Alors pourquoi ces producteurs de désinformation ont-ils ciblé les Américains? Ont-ils été téléguidés? Et pourraient-ils recommencer lors des élections de mi-mandat au mois de novembre ou alors lors de la prochaine présidentielle américaine en 2020? Plongé aujourd'hui dans le monde des fausses informations et leur modèle économique, c'est un grand reportage à Vélès en Macédoine de Marie Normand.
Ferme la porte.
Ça, c'est l'un des premiers sites internet que j'ai utilisé pour publier des articles. On peut voir celui-là. Obama a donné à la campagne d'Hillary Clinton 300 millions de dollars piqués aux vétérans. Ça, tout le monde voulait le lire.
Goran soutient avoir participé, comme une centaine d'autres jeunes de Vélès, à la publication massive d'informations bidons en faveur de Donald Trump. Des articles au titre racoleur, le plus souvent entièrement faux, qui ont pollué la campagne électorale américaine fin 2016. Goran a accepté de témoigner, mais à sa demande, nous avons changé son nom et modifié sa voix.
Le journalisme, c'est transformer une mouche en éléphant. Ça, c'est du journalisme pour moi. Tu dois écrire des choses du style « breaking », « choquant ». Des titres qui font que tout le monde a envie de cliquer. On peut prendre un exemple. Oh mon Dieu, de nouveaux emails d'Hillary Clinton dévoilés. Ça, c'était intéressant. C'était pas le genre d'info qu'on pouvait voir sur les autres médias.
Mais c'est faux.
Au final, les Américains décidaient sur quoi ils cliquaient, ce qu'ils lisaient. Toi, tu appelles ça des fake news, pas nous. Parce qu'en fait, dans le monde entier, tout le monde a envie de lire ce type d'infos. Des infos plus intéressantes, plus attrayantes. C'est ça qu'on faisait, et c'était super.
Pour comprendre comment et pourquoi de jeunes Macédoniens ont pu peut-être orienter le vote des Américains avant la présidentielle, nous nous sommes rendus à Vélès, à une cinquantaine de kilomètres de Skopje, la capitale. Une commune a priori sans histoire, de 55 000 habitants, jumelée depuis peu à la ville de Cherbourg en France. Le théâtre de Vélès est comble ce soir-là. La ville célèbre le 75e anniversaire de la mort du célèbre poète Kotchoratsine, considéré comme le fondateur de la littérature moderne en Macédoine. Il est né ici, à Vélès. Les rencontres de Ratsine rassemblent chaque année des intellectuels et des diplomates de toute la région. Le type d'actualité que le maire, Atze Kotsevski, voudrait voir passer au premier plan. Il regrette que la réputation de sa ville, si moderne, si innovante, soit ternie dans les médias étrangers par cette histoire de fake news.
Bien sûr, en tant que maire, ça ne me fait pas plaisir. Vélès a déjà été mis en avant dans les médias de façon négative. La première fois, c'était pour une histoire de trafic de drogue en Allemagne. J'estime que c'est le résultat d'une transition difficile, longue et éprouvante pour Vélès. Beaucoup de familles se sont retrouvées sans moyens de subsistance et évidemment, elles n'étaient pas en situation d'éduquer correctement leurs enfants.
Vélès, un temps l'une des villes les plus industrialisées de Yougoslavie, championne de la porcelaine, de la brique. Elle ne s'est jamais complètement relevée de la période dite de transition après l'éclatement de la fédération au début des années 90.
Cette zone, c'était la partie industrielle de Vélès. Les compagnies d'État du temps du communisme qui ont toutes fermé au moment de la transition.
Et c'est devenu quoi maintenant?
C'est juste un gros Adrien.
Aujourd'hui, un cinquième de la population active est au chômage et les jeunes, comme Orzeyovev, forment le gros des troupes. Il y a des emplois, mais les jeunes diplômés rechignent à accepter un salaire avoisinant les 300 euros. Orzey est l'un des rares à n'avoir pas cédé aux sirènes des fake news à l'époque. Mais comme tout le monde ici, il a un voisin, un frère, un ami qui a baigné dans ce business juteux. Quelques commerces ont d'ailleurs fleuri à Vélez juste après la présidentielle américaine, comme cette boîte de nuit.
Elle a été créée par deux mecs qui faisaient des fake news. C'est de notoriété publique. Tout le monde le sait. Bien sûr que c'est bien pour la ville, pas seulement pour ces jeunes-là. Mais comme tous ces gens consomment de l'alcool, ça fait plus de consommation.
Impossible d'accéder au gérant de cette boîte de nuit, il refuse de s'exprimer. Pour rentrer à l'intérieur de cet établissement avec un micro, un intermédiaire nous demande de débourser une certaine somme d'argent. Il faut aussi payer pour interviewer d'autres petites mains de la fake news. RFI a choisi de ne pas encourager ces pratiques. Goran aussi a réinvesti. Après s'être payé des vacances et un nouvel ordinateur, les recettes de ses sites internet lui ont permis d'acheter des parts dans plusieurs entreprises. L'objectif était, dit-il, de s'assurer un avenir dans un pays où les jeunes manquent de perspectives.
J'avais 17 ans. J'ai commencé avec les motos, avec les camions, après avec les avions. J'écrivais des infos là-dessus. Je postais des vidéos des dégâts après des crashs. Et ça intéressait les Américains.
Pourquoi les Américains ?
Google AdSense, la régie publicitaire de Google, nous paye pour placer des publicités sur notre site web. Si vous regardez bien leur liste, vous verrez que c'est quand un Américain clique qu'on est le mieux payé.
Donc vous devez absolument cibler les Américains.
Tu peux aussi travailler pour les Canadiens, pour les Britanniques. Mais pour moi, c'était plus intéressant de travailler pour les Américains, parce que c'est le plus gros marché et c'est celui qui rapporte le plus. Donc après, j'ai commencé à écrire sur la politique. Quand tu écris sur Trump, tout le monde veut lire, liker, commenter ou partager.
En d'autres termes, les articles pro-Trump font gagner plus d'argent. Goran affirme ainsi avoir alimenté une dizaine de sites web pendant les 3 mois qui ont précédé l'élection présidentielle et les 3 mois qui l'ont suivi. Sur Facebook, il explique avoir acheté des publicités pour faire la promotion des articles publiés, pour attirer des Américains sur ses sites. Des journées et surtout des nuits, les yeux rivés sur les écrans.
Déjà, ta journée, elle se passe pas en Macédoine. Elle se passe aux États-Unis. Tu ne vis pas sur ton fuseau horaire, mais sur le leur. Pourquoi ? Parce que si je dors quand ils se réveillent, je ne fais pas d'argent. Je dois être prêt quand ils postent des commentaires, pour leur répondre, pour avoir l'air d'un vrai site d'info sérieux. Si tu veux avoir un petit business, tu peux faire ça seul. Mais si tu veux avoir un gros business, tu dois avoir, entre toi et le lecteur, plusieurs auteurs, des personnes pour s'occuper des photos, des gens pour partager tes articles. Tu dois avoir une équipe.
Goran a beau parler comme un homme d'affaires, il n'a que 19 ans et vit toujours chez ses parents. Grâce aux fake news, il avoue avoir gagné 10 000 euros par mois en moyenne, une fortune dans un pays où le salaire moyen mensuel tourne autour de 370 euros. De quoi faire des envieux comme Damian, qui à 25 ans cumule lui 2 emplois, livreur et chauffeur de taxi.
My job started at 5 o'clock and 30 minutes.
Je commence le travail à 5h30 du matin. Je travaille pendant 7 heures et après, je commence à conduire mon taxi. Je suis payé 200 euros, c'est trop peu. J'ai besoin de 500 euros minimum pour survivre parce que j'ai une copine. Demain, je vais me marier, avoir un enfant. Avec 200 euros, je ne peux pas me marier. Ces mecs qui ont fait les fake news sur Trump, ils ont gagné beaucoup d'argent. Maintenant, je les vois, ils ont de grosses voitures, ils ont beaucoup d'argent, ils se fichent de tout et ils ne travaillent même pas.
Et pourquoi vous n'avez pas fait la même chose ?
Parce que quelqu'un aurait dû m'apprendre. Eux, ils ont été formés à faire des sites web, pas moi. Un de mes amis en faisait, mais même lui n'a pas voulu m'expliquer comment faire.
Certains se sont d'ailleurs enrichis en proposant opportunément à ces jeunes macédoniens des cours de marketing web. Sur son site internet, Mirko Tchechelkovski se targue d'avoir accidentellement aidé Donald Trump à gagner les élections. Il vend aujourd'hui sa formation en ligne 999 $. Nous devions le rencontrer à Skopje, mais lorsque nos questions sont devenues plus précises, il a brutalement coupé court à nos échanges. Quelles sont réellement les capacités rédactionnelles de ces jeunes internautes à l'anglais parfois hésitant ? Ont-ils rédigé eux-mêmes ces articles, ces pièges à clics ? Sont-ils téléguidés ? Goran tourne autour du pot et explique avoir eu recours au service de rédacteurs.
Peut-être qu'au début, tu commences par copier-coller des textes venant d'autres sites. Et puis après, quand tu as de l'argent, tu emploies de vrais journalistes. Tu les payes trois fois plus que leurs propres médias. Alors forcément, ils travaillent pour toi.
Donc vous avez travaillé avec des journalistes macédoniens ?
C'était possible aussi d'embaucher des journalistes d'autres pays. Des Américains, qui sait ? Je ne peux pas donner de nom. Mais bon, la plus grosse équipe d'auteurs venait d'ici, de Macédoine.
Goran n'en dira pas plus.
Welcome. My office is...
Ubavka Janevska, la rédactrice en chef du site d'information Douma, nous accueille dans son bureau, à Vélez. Elle a été l'une des premières à comprendre ce qui était en train de se passer dans sa ville.
J'ai commencé à recevoir beaucoup de demandes d'amis sur Facebook, de personnes que je ne connaissais pas. Des demandes qui, apparemment, venaient des États-Unis. Il s'agissait en grande partie de soldats, de personnes appartenant à des unités de l'armée américaine. J'étais confuse, alors j'ai commencé à regarder ces profils de plus près. Ce sont mes plus jeunes collègues qui ont finalement réussi à trouver leurs adresses IP. Il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas de citoyens américains, mais de profils ouverts par des personnes originaires de Vélez. On a alors compris que des jeunes d'ici ouvraient de faux profils.
Des jeunes qui, dès 2014, investissent des groupes Facebook fréquentés par les Américains pour les rabattre sur leur site web dédié à la santé, au bien-être. Des remèdes de grand-mère transformés déjà en articles, en pièges à clics. En 2016, les sujets prennent une tournure politique. Ubavka identifie alors plusieurs équipes, en tout une centaine de jeunes de 18 à 25 ans. Mais elle ne croit pas du tout à la belle histoire d'adolescents faisant fortune tout seuls devant leur ordinateur.
La plupart d'entre eux ne parlaient même pas anglais. On n'a pas réussi à identifier les commanditaires. Mais ce que nous supposons, c'est que les textes étaient fournis par des cabinets de conseil qui savent ce qu'est l'information, et les jeunes ne faisaient que les reprendre, les retravailler, peut-être changer le titre et les poster.
Des journalistes macédoniens qui rédigent des fake news, des cabinets de conseil à l'étranger. À Skopje, ce journaliste d'investigation avance encore une autre piste, peut-être complémentaire, l'implication présumée du VMRO, le parti nationaliste qui vient de quitter le pouvoir après 10 ans aux manettes.
Je m'appelle Djelal Neziri. Je suis président et rédacteur en chef de Scoop, le centre pour le journalisme d'investigation en Macédoine. Notre enquête montre que cette opération a été coordonnée par le précédent gouvernement. Ils ont utilisé ce qui existait déjà, ces jeunes qui faisaient des articles bidons dans le domaine de la santé, pour relayer leurs opinions politiques avant les élections parlementaires, ici en Macédoine. Et ensuite, cette même plateforme a été utilisée au moment des élections américaines. Beaucoup de ceux qui ont publié, partagé des contenus qui étaient impliqués dans ce projet étaient des fonctionnaires locaux ou gouvernementaux. Notre hypothèse, c'est que peut-être le précédent gouvernement était impliqué ou au moins au courant de cette opération. Voilà, c'est notre article. Là, on a une déclaration d'un membre du parti qui était au pouvoir dans le précédent gouvernement.
Du parti VMRO.
Oui, et cette personne explique comment elle s'est retrouvée à travailler dans les fake news.
RFI n'a pas pu confirmer ces informations de manière indépendante. Une chose est sûre, c'est que les recettes publicitaires, colossales à l'époque, étaient déclarées et soumises à l'impôt, donc connues de l'administration. Là, vous me parlez d'acteurs qui ne sont pas du tout ceux dont on parle le plus, c'est-à-dire les jeunes de Vélez.
Ils ne connaissent même pas la politique macédonienne. Alors il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils sachent ce qu'il se passe aux États-Unis. Je pense que ces jeunes sont juste des proxys, des intermédiaires. Ils couvrent les activités d'autres personnes. Ces jeunes avaient juste l'intention de gagner de l'argent, mais le but, au final, était bien d'influencer les élections.
Djelal Neziri soutient que depuis longtemps, le pays tout entier baigne dans les fausses informations et que d'ailleurs les journalistes sont devenus des cibles.
Ces sites d'info, je peux t'en montrer un. ça, c'est Rougadret, ça veut dire droit chemin. Et regarde, si tu cherches qui est le directeur, qui est le rédacteur en chef, tu ne trouves rien. Mais si tu tapes mon nom, regarde là, il raconte que je suis devenu le porte-parole d'un des partis au pouvoir, juste parce que j'ai critiqué la politique du parti dont ce site est proche. Avant les élections, ils ont publié beaucoup de fausses informations sur moi, juste pour me faire taire. Alors je continue à me battre contre cette désinformation. Ça me demande pas mal d'énergie.
D'autres journalistes macédoniens nous ont confirmé ces campagnes de dénigrement. Djelal Nediri réclame un meilleur contrôle de ces sites d'infos qui pullulent en Macédoine. Mais impossible de satisfaire cette demande, assure Damian Manchevski. Le ministre de la Société de l'Information et de l'Administration a reçu RFI à Skopje.
Nous sortons d'une période vraiment sombre pour les médias. Donc toute interférence de la part du gouvernement dans ce domaine serait vraiment très mal perçue.
Damian Manchevski croit en revanche au travail d'une commission d'éthique et à une meilleure transparence des institutions pour réduire l'espace que peuvent occuper les fausses informations. Quant à une éventuelle enquête sur ces réseaux qui ont matraqué des informations pro-Trump, le ministre botte en touche.
Aucune loi nationale n'a été violée ici. Ces personnes avaient des contrats avec des entreprises étrangères. Ils payaient des impôts. Ceux qui les ont employés ne sont pas en Macédoine. Ils se cachent généralement dans des compagnies offshore. Nous, en tant que très petit pays, petit gouvernement, nous ne pouvons pas les atteindre. Cela relève d'une approche mondiale. Mais il doit y avoir, quelque part, quelqu'un qui se présente comme une victime de ces activités. Par exemple, l'élection américaine. Quelle que soit la victime, il doit y avoir un dépôt de plainte pour que l'on puisse, sur cette base, demander, nous aussi, un accès à des informations sur le plan international.
Goran a-t-il travaillé consciemment ou sans le savoir pour des entités à l'étranger ? Le jeune producteur de fausses informations nie tout en bloc.
C'est une fausse information, c'est nous qui avons décidé de faire ça.
Il est pourtant loin de suivre la politique américaine. Il ignorait par exemple que des élections de mi-mandat se tenaient cette année aux États-Unis. Le jeune entrepreneur affirme en revanche qu'il réfléchit déjà à la prochaine présidentielle en 2020, mais Facebook lui a mis depuis des bâtons dans les roues.
Je peux te montrer. Compte désactivé. Nous avons déterminé que vous n'étiez pas éligible à utiliser Facebook. Cette décision est définitive. En une nuit, les comptes de la moitié des gens de la ville, ceux qui ont travaillé sur la politique, ont été supprimés. 10 ans de photos, d'amis, de messages, tout a disparu.
Contacté par RFI, Facebook n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Son service de presse français assure que les suppressions de comptes ne sont pas spécifiques à une ville, à un pays, mais sont sujets à une politique globale. Pourtant, en mars 2018, le patron du réseau social, Mark Zuckerberg, expliquait dans le New York Times qu'un nombre important de profils macédoniens tentant de répandre des fausses nouvelles avaient été identifiés et éliminés. La communication de Facebook nous renvoie à l'ensemble des mesures prises par le réseau social pour lutter contre la désinformation. Cette fameuse zone grise, comme la qualifie le réseau social.
Si vous réfléchissez aux infos que vous lisez en une journée, combien sont objectivement fausses, combien sont objectivement vraies? Beaucoup de contenu se trouve en zone grise.
Goran soutient, photo à l'appui, qu'en 2016, quelques jours avant la présidentielle américaine, Facebook a diminué brutalement le prix des encarts publicitaires pour les contenus de nature politique. Interrogé spécifiquement sur ce point, Facebook ne nous a pas apporté de réponse. Aujourd'hui, faire la promotion de tels contenus est beaucoup plus compliqué. L'objectif est de limiter les gains financiers des auteurs de fausses informations, écrit Facebook. Ce qui rend Goran un peu amer. Il réfléchit déjà à une manière de contourner le problème.
Donc Facebook a tué votre business.
Facebook a tué mon business, mais seulement 2 ans après. Pas au moment où je lui faisais gagner de l'argent. Peut-être que je vais trouver un autre moyen de promouvoir mes pages. Il y a beaucoup d'autres moyens de le faire. Il n'y a pas que Facebook.
Retour à Vélez, capitale mondiale des fake news, un grand reportage de Marie Normand, réalisation Pierre Chaffanchon.